du féminisme dans ta radio.
And we want revolution. Girls talk.
Superlatif délice sur Antenne Doc.
Bande de connes.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Tous les premiers dimanches du mois à 14h.
Et en rediffusion le jeudi qui suit à 14h aussi.
Ferme ta braguette.
Et prends-en de la graine.
Superlatif délice.
Superlatif délice. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission féministe sur Antenne Doc. Superlatif délice. On va vous expliquer pourquoi on a choisi ce nom. Donc nous sommes deux. Aujourd'hui on est deux. On sera peut-être plus tard. Il y a donc...
Emeline, bonjour.
Et moi-même, Pauline. Et à la technique, on a Benjamin et Fred, heureusement qu'ils sont là. Et on inaugure aujourd'hui, en plus, le nouveau studio d'Antenne Doc, dans les nouveaux locaux. Donc on a des super micros, on est super contente. Superlatif délice, c'est le nom de notre émission. Je vais prendre juste deux minutes pour expliquer pourquoi on a choisi ce nom. Superlatif délice, c'est une expression qu'on a trouvée sur un dictionnaire érotique du 19e siècle. Et les superlatifs délices, alors je vous lis la définition qui est très courte, c'est le moment où l'homme et la femme... Emeline, peut-être que tu veux lire, en fait.
Oui, bien sûr, oui. Donc, les superlatifs délices, c'est le moment où l'homme et la femme, mêlant leurs ondes spermatiques, se pâment sous l'excès de la jouissance qui en résulte.
Voilà, c'est un petit peu sympa, moi, je trouve. C'est le moment où on est vraiment, vraiment ensemble. Et en plus, dans ce titre, il y a le mot délice, qui était intéressant parce que il fait partie des trois mots de la langue française qui changent de genre en passant au pluriel. C'est-à-dire que un délice devient des délices au féminin. Voilà. Et les deux autres mots étant orgue et amour. Donc ces trois mots qui nous intéressent bien parce qu'ils changent de genre. Et on verra plus tard dans l'année pourquoi toutes ces histoires de genre nous intéressent. On fait aujourd'hui notre première émission sur la première vague féministe qui démarre au milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. En comptant large, ça fait un siècle, la première vague, en comptant très large. La prochaine émission sera donc sur la deuxième vague, celle qu'on connaît un petit peu mieux, celle des années 70. Et puis ensuite, on embrayera sur la troisième vague actuelle, voire peut-être le début d'une quatrième. Donc on va faire des premières émissions qui vont être un petit peu historiques et un peu théoriques au début. Et on fera aussi des émissions thématiques par la suite. Et on aura des invités, des reportages, des tas de choses chouettes. On reste pour cette première émission, enfin pour ces trois premières émissions un peu historiques, on va rester sur un axe assez français. On parlera assez peu des autres pays européens ou du monde, enfin on va faire des petits liens, mais il y a tellement à dire et on n'est pas des spécialistes ni des historiennes, donc on va rester sur ce qui s'est principalement passé en France. Voilà, est-ce qu'il y aurait autre chose à dire, Emeline, sur ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on va faire plus tard? À part que faut pas avoir peur du féminisme et que le féminisme n'a jamais tué personne.
Alors que le machisme, oui. Peut-être dire qui on est quand même, que les gens...
Oui, qui es-tu, Emeline?
Donc je suis Emeline, je vis dans le Lot et je fais partie du planning familial, tout comme toi.
Oui.
Et donc Pauline est au planning familial de Figeac et moi je fais partie de celles qui sont en train de monter une antenne à s'insérer. Voilà, pour ceux et celles qui veulent rejoindre l'aventure, vous êtes les bienvenus.
Surtout s'il y a des cadurciennes, parce qu'il n'y a plus de planning familial à Cahors. Et on est extrêmement triste. On lance une petite chanson avant d'attaquer.
Oui.
Oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est Anne Sylvestre, La faute à Ève.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements qu'aucune pomme à l'inventaire qui l'a volée, c'est toi Adam. Et veut savoir ça fanfaronne. Et dit, mais non, papa, c'est moi. Et d'ailleurs, elle était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève. S'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève. Il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs. C'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire. Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses. Bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais, qu'est-ce qu'ils s'imaginent. J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable ne l'est pas.
Pour débuter cette première vague, donc après cette interlude musicale, on va vous parler d'abord du contexte politique et social pour qu'on se plonge tous ensemble à cette époque-là. Alors, pour le contexte politique, au début de la première vague, on est en plein dans le Second Empire, qui a duré de 1852 à 1870. On est en pleine guerre franco-prussienne. Et suite à la défaite de Napoléon III à Sedan, les Prussiens assiègent Paris. Napoléon est prisonnier et le peuple de Paris se soulève. C'est ce qu'on appelle et ce qu'on connaît tous, c'est la Commune. On est en 1871. Les femmes ont un rôle actif dans les combats et sur les barricades. Et les hommes, finalement, ils ont du mal à accepter ces rôles-là. Dans cette Commune, on connaît notamment Louise Michel. Et puis quelques autres communardes qu'on vous invite à lire dans la série Communardes, justement.
C'est de la BD.
C'est de la BD, voilà, de Lupano, édition Vent d'Ouest. Voilà, donc vraiment, on vous invite à les lire parce que c'est des portraits, du coup, de communardes très bien faits et très historiques. Donc finalement, on reste dans un contexte pas vraiment favorable à l'émergence de revendications féministes. Et puis, en 1871... c'est la Troisième République. Et au fur et à mesure que cette Troisième République se consolide, le féminisme se consolide aussi. Il prend une forme plus organisée et plus solide, notamment autour de 1880. Voilà, pour ce qui est du contexte politique.
Le contexte social, maintenant. Donc, il faut bien garder en tête une histoire aussi de classe. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas forcément de la même manière pour les femmes issues de la bourgeoisie et pour les femmes issues du milieu ouvrier. Les femmes bourgeoises, elles sont plutôt valorisées. Elles ont une place qui est un petit peu plus respectable et respectée, du coup. Donc elles ont possibilité de se rencontrer, de faire des salons, des œuvres de charité, etc. Elles sont pas forcément, en fait, plus libres. Elles sont juste moins pauvres. Voilà. Les ouvrières... ensuite, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, quand je dis ouvrière, faut savoir qu'il y a une partie des femmes des basses classes qui travaillent, puisqu'il y a eu la révolution industrielle et qu'à un moment donné, la révolution industrielle, il lui faut une main d'œuvre. Mais c'est quand même souvent des femmes jeunes et des célibataires, puisque de toute façon, les femmes sont destinées à être mariées et à s'occuper du foyer. Donc elles vont pas forcément toutes travailler, ou pas toutes le faire toute leur vie. Elles vont donc participer à cette révolution industrielle. C'est très intéressant de faire travailler les femmes, puisque c'est une main-d'œuvre qui est à très faible coût. À l'époque, on paye les femmes 50% moins cher que les hommes. Et en plus, elles n'ont même pas le droit de disposer de leur salaire, c'est-à-dire que ce salaire est destiné à leur mari. Elles auront le droit de disposer librement de leur salaire qu'en 1907. Donc c'est quand même assez tard. Et du coup, on a aussi beaucoup dans cette classe ouvrière de prostitution économique, et que donc après l'usine ou après la mine, ces femmes vont essayer d'avoir de l'argent pour elles d'une autre manière. Il y a quand même un contexte de domination sexuelle très très fort dans cette société française de la fin du 19e siècle. L'infidélité féminine est punie de prison quand même, c'est 2 ans.
C'est pas rien.
Pas sympathique. On aura le droit de divorcer qu'en 1884. Donc pareil, c'est pas très tôt. Et surtout, il faut bien garder en tête, mais même pour toute la suite de ce qu'on va dire dans les prochaines émissions, que le 19e siècle, c'est vraiment un moment où vont se construire, où vont se cristalliser tous les vieux sacs qu'on se traîne encore aujourd'hui et dont on n'arrive pas à se défaire, toutes les constructions, les représentations, les injonctions, aussi bien féminines que masculines, dont on n'arrive toujours pas à se défaire aujourd'hui. Au 19e siècle, c'est le début du culte de la pureté, de la virginité, de la femme innocente qui doit rester dans une convenance, en fait. Il y a un poids de la morale qui est de plus en plus fort, notamment sur les femmes. Mais à côté de ça, il y a aussi une légèreté des mœurs qui se développe. Il y a énormément de maisons de prostitution. Donc, c'est pareil. C'est les bourgeois qui vont consommer de l'ouvrière, concrètement. On estime qu'il y a, à la fin du 19e siècle, 155 000 prostituées dans Paris. Alors moi, je me suis amusée à faire un petit calcul. J'ai regardé combien il y avait de femmes à Paris à cette époque-là. Donc en gros, il y a 2,4 millions habitants à Paris. On n'a qu'à dire qu'il y a la moitié de femmes, 1,2 million. Ce qui fait qu'en gros, une femme sur 7 ou 8 est prostituée à Paris à ce moment-là. Voilà. Il y a donc, c'est un 19e siècle un peu à double tranchant, parce qu'il y a ça, mais il y a ce développement de carcans moraux. Et cette morale sexuelle va s'insinuer aussi dans le couple, dans le couple marié. C'est-à-dire que la femme doit absolument maîtriser ses pulsions. La femme n'a pas de désir, la femme n'a pas de corps, parce qu'elle ne doit surtout pas passer pour une prostituée, justement. Cette idée, elle perdure vachement aujourd'hui. Le truc de la femme, elle aime pas trop le sexe.
Oui.
Bah, ça date de là, comme un milliard de choses qui datent de ce moment-là, en fait. Alors, elle doit maîtriser ses pulsions, sinon c'est une hystérique et qu'il faut qu'elle fasse soigner. Mais elle doit pas repousser le désir du mari, puisque lui, il en a, il est absolument pas question qu'il maîtrise quoi que ce soit. Donc c'est elle d'accepter ce qui se passe, en fait. Donc, et en plus, voilà, cette histoire, elle doit accepter ce devoir conjugal, mais ça doit se faire dans le noir et en chemise.
Ah oui.
Et on ne se mettait pas du tout nu à cette époque-là, même on se lavait habillé. C'est le truc du corps, c'est un truc compliqué. Et c'est aussi l'époque où il y a un gros débat autour de la jouissance, donc toujours dans ce truc des convenances. Jouir, c'est un truc suspect, surtout pour une femme. Il y a des gens qui pensaient qu'il fallait quand même jouir pour arriver à se reproduire, enfin... Et puis d'autres qui disaient que la jouissance c'était quand même une maladie. Enfin, il y a eu un début de débat sur la sexualité et le plaisir. Au début du XXe siècle, il y a des interdits qui commencent un tout petit peu à s'alléger, à reculer. Et on a un petit peu moins de pudeur. La notion de pudeur recule un petit peu. Et dans les milieux bourgeois, alors on verra aussi que... De toute façon, à chaque fois qu'il y a un petit progrès, une petite avancée, c'est d'abord dans les milieux bourgeois. Dans les milieux de bourgeois au début du XXe siècle, c'est les années 1900, c'est un petit peu la fête. On se lâche plaisir, adultère, on envoie un peu en l'air la morale C'est l'époque où on a les premiers pornos aussi, les premiers pornos filmés et les premiers pornos photographiés. Et c'est aussi l'époque où on va commencer à avoir les premières études sur la sexualité, donc Freud, mais aussi surtout Kinsey par la suite, etc., qui va annoncer les Masters and Johnson, dont on parlera plus tard. Je vais faire juste un petit topo sur l'éducation, parce que les filles, évidemment, sont élevées de toute façon en vue du foyer et de la conjugalité. C'est l'objectif premier, c'est le foyer. Il n'y en a pas tellement, du coup, qui font des études. De toute façon, elles n'ont pas le droit d'aller au-delà du CM2. En 1880, on a une loi qui passe, qui dit qu'elles ont le droit de faire des études secondaires, c'est-à-dire de passer en sixième. Mais ça concerne surtout les filles bourgeoises parisiennes. Voilà.
Et sinon, c'est peut-être le couvent, non ?
Sinon, il y a l'éducation religieuse. Alors voilà, oui, voilà. Les écoles, elles sont de toute façon non mixtes. Et elles sont, même les livres scolaires sont différenciés. Il y a les livres pour les garçons, les livres pour les filles. Et l'école, c'est vraiment le lieu où on voit la différence entre les classes sociales. Parce que là où les ouvrières vont apprendre la couture, parce que, à l'école, on apprend la couture, puisque le but, c'est le foyer. Mmh. Donc là où les ouvrières vont apprendre la couture, les bourgeoises, elles vont apprendre la couture et la littérature. Elles vont avoir droit à quelque chose en plus. Et en la matière, de toute façon, c'est comme pour tout, quand il y a des progrès, ça se fait d'abord pour les bourgeois. Bon, il y a un petit truc que j'ai pas dit quand même avant, c'est que juridiquement, les femmes, elles n'existent pas du tout. C'est-à-dire qu'elles sont, ce sont des éternelles mineures. Elles sont soumises au chef de famille, donc d'abord au père, puis au mari. Il n'y a pas de majorité pour les femmes, ça n'existe pas. Et elles sont considérées dans la loi comme incapables. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas sans mari. Par exemple, les veuves, les femmes qui perdent leur mari, elles n'héritent pas de leur mari. La capacité légale, ce qu'on appelle la capacité légale, elle sera reconnue qu'en 1893. Voilà. Et je vais terminer juste par un petit point sur les conditions de vie, de santé physique des femmes, puisque pour les femmes, la mortalité est toujours plus forte à cette époque-là, par rapport à leurs conditions de vie et aux violences auxquelles elles sont beaucoup confrontées. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la reproduction. Hein. On meurt beaucoup plus en couche. Les femmes enceintes travaillent, elles ne s'arrêtent pas de travailler. Les femmes qui travaillent, elles ne s'arrêtent pas parce qu'elles sont enceintes. Elles travaillent jusqu'au bout et elles travaillent tout le temps, en fait. L'IVG est évidemment interdit, donc forcément, il y a les réseaux d'entraide qui fonctionnent. Mais c'est un petit peu, le truc un peu de sagouin, ça marche pas à tous les coups, il y en a beaucoup qui y restent quand même, et il y a aussi beaucoup de médecins qui le font, mais qui en font un business, et qui du coup font ça aussi un peu n'importe comment, donc c'est quand même très artisanal l'IVG à ce moment-là.
Et ça va durer.
Ça va durer. En 43, 1943, donc vachement plus près de nous, sous Vichy, l'IVG sera même déclaré crime contre l'État. C'est quand même un truc, crime contre l'État, quoi. C'est pas rien. Et je voulais juste finir un peu sur l'accouchement. Il y a un tout début à la fin du 19e siècle, on commence un tout petit peu à médicaliser l'accouchement. Parce que les femmes sont un peu rétives quand même à aller accoucher à l'hôpital, parce que c'est quand même un endroit où on meurt vachement plus qu'ailleurs, notamment quand on accouche. Et du coup, à ce sujet, je vous invite à lire la thèse de médecine. Alors ne prenez pas peur, en fait, c'est Louis-Ferdinand Céline, qui était médecin, qui a fait sa thèse de médecine sur un médecin autrichien qui s'appelait Semmelweis. Et Semmelweis, donc c'était un médecin autrichien du milieu du 19e siècle, et il constatait que les femmes qui allaient accoucher à l'hôpital, il y en avait une sur deux qui mouraient. Alors que les femmes qui n'accouchaient pas à l'hôpital, bon, elle mourait aussi, mais en une proportion quand même beaucoup moindre, quoi. Donc il a cherché un petit peu, et puis bon, bah pour faire bref, il s'est juste rendu compte que les médecins qui étaient aussi légistes à l'époque, c'était pas des professions séparées, les médecins passaient de cadavres aux femmes en train d'accoucher, et il s'est rendu compte que personne ne se lavait les mains. Et qu'en fait, on connaissait pas encore les microbes à l'époque, la médecine microbienne, on connaissait pas les microbes. Donc, il a fait un lien entre les substances qui pouvaient provenir des cadavres qui étaient sur les mains des médecins et cette fameuse fièvre puerpérale, pour la nommer, dont les femmes mouraient beaucoup à l'hôpital, à tel point que les femmes préféraient quand même accoucher dans la rue plutôt qu'à l'hôpital. Donc à partir du moment où il s'est battu et qu'il a préconisé qu'on se lave les mains, ça a beaucoup reculé. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Lisez ce bouquin, c'est très court et c'est très chouette. Voilà, on va... Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute une petite chanson ?
On écoute une petite chanson.
On écoute quoi ?
On écoute Beyrouth ?
On écoute Beyrouth.
Allez.
Well, it's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Resituons-nous, nous sommes dans la première vague, nous avons fait le contexte politique, donc normalement nous sommes tous au 19e siècle. Alors le féminisme, qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Alors comme Pauline l'a dit, tout ce qui est, il y a beaucoup de choses du 19e siècle qui restent encore aujourd'hui, et le féminisme en fait partie, parce que le mot naît en France et il vient de la médecine. Et il désigne une pathologie qui... Alors, excusez-moi, il désigne une pathologie sur les sujets masculins.
Pardon, toi, j'ai balancé ma feuille et du coup j'étais là, mais...
Pourquoi j'ai balancé cette feuille ? Le féminisme, tu disais, au départ c'était un mot péjoratif et négatif. Alors...
Le féminisme, c'est un mot qui est né en France et il désigne la féminisation des sujets masculins. Donc, à la base, c'est déjà une pathologie. Enfin, c'est déjà, si ça l'est encore, ça reste à voir. Donc, il désigne des caractères secondaires féminins sur un homme. Voilà, donc finalement, on peut quand même faire le lien avec aujourd'hui en se disant qu'on décrit souvent les féministes comme des garçons manqués.
Des femmes virilisées.
Voilà. Voilà, donc déjà, ça, c'était intéressant. Et puis après, Alexandre Dumas fils, un grand misogyne de son époque, l'a utilisé dans un sens politique pour la première fois en 1872. Et là encore, il désigne aussi une pathologie sociale, cette fois-ci, et pas médicale. Et il veut montrer que l'égalité femmes-hommes demandée contredit la répartition des rôles voulus par la nature. Donc voilà, il y a bien des rôles féminins et masculins. Le mot sera ensuite employé pour qualifier l'aspiration à l'égalité des sexes. Et en 1882, Hubertine Auclair, la pionnière de la lutte pour le droit de vote des femmes, dont
c'est
on
la,
reparle...
C'est la grande figure de la première vague, Hubertine Auclair. Oui. On fera un petit portrait tout à l'heure.
Oui, voilà. On en parlera plus ensuite. Donc, c'est cette femme qui s'autodéfinit féministe pour la première fois.
Et qui donc fait quelque chose de positif de ce terme-là, quoi.
Oui, complètement. Complètement. Mais encore aujourd'hui, malgré tout, on peut se demander si le féminisme n'est pas un mot qui fait trop peur.
Oui, on a prévu une petite émission là-dessus.
Voilà.
On vous la met de côté.
Alors, on revient à notre chère première vague. Il y a quatre tendances du féminisme. Alors désolé, ça va être un petit peu théorique, tout ce que je vais raconter, mais c'est très intéressant, donc n'éteignez pas la radio tout de suite. La plus ancienne, c'est la tendance réformatrice. Celle-ci est républicaine, elle est lancée par Maria de Rem et Léon Richer, qui sont deux féministes aussi de l'époque, et elle se préoccupe surtout de l'éducation des filles et de l'égalité des droits civils. Elle demande la réforme du Code civil de Napoléon. Alors, ce code civil, il a été écrit en 1804 et il relègue les femmes à un statut très inférieur. Si vous pouvez aller en lire quelques extraits, ça vous parlera beaucoup plus. De là, il y a Hubertine Auclair, toujours la même, qui introduit le droit politique des femmes. Et cette idée, finalement, elle reste assez en marge. Ensuite, il y a la tendance réformiste. Et qui représente le courant majoritaire. Donc il est toujours républicain, il est laïque, de centre-gauche, et il est organisé en association. Alors celui-ci, il veut émanciper les femmes par des réformes progressives, en s'appuyant sur le droit. Et il lutte pour le droit de vote, pour l'égalité dans le travail, et contre la prostitution réglementée par l'État. Bon, finalement, ça n'obtient pas plus de succès que le droit de vote. Il y a la tendance radicale, qui est appelée intégrale à cette époque-là. Alors, celle-ci, elle est plus révolutionnaire. Elle est associée à un engagement syndical ou socialiste. Pourquoi radicale ? C'est parce que ce courant, il suggère une rupture avec l'idée de changement par des réformes progressives. Il essaie vraiment d'aller chercher les racines mêmes de la domination. Et il porte une attention particulière à la sexualité et au néo-malthusianisme, qui est la lutte pour la réduction des naissances.
C'est un petit peu ce qui pourrait se rapprocher de ce qui se passe aujourd'hui, ça.
Tout à fait. Oui, oui.
Mais en fait, c'est la seule tendance de l'époque qui relie sexe et classe, en fait.
Oui, oui, oui.
Et ça, c'est clairement toujours plus que jamais le cas.
Complètement. Toute forme de domination, en fait.
Il y en a une quatrième.
Il y a enfin, voilà, la quatrième tendance, qui est la tendance modérée, qui apparaît dans les années 20, donc finalement... à la fin de la première vague. Et celle-ci, elle vient rompre complètement avec les autres vagues parce qu'elle est marquée par des positions conservatrices et catholiques, alors que les féministes des autres courants sont laïques et voire anticléricales. Donc cette tendance-là, ben elle est non réactionnaire, hein, elle n'est pas du tout réactionnaire.
C'est pas du féminisme en fait, hein. Soyons clairs.
Chacun ses opinions quand même, on va pas penser pour vous. Alors elle vise à améliorer la condition des femmes quand même, mais sans remettre en cause l'organisation sociale. Donc elle est pour le droit de vote des femmes.
Donc ça sert à rien en fait.
Elle est pour le droit des votes des femmes, mais elle défend quand même le principe de la femme au foyer. Voilà, elle respecte quand même les rôles traditionnels.
Oui, bon, c'est bon, ok, tu peux aller voter tant que tu continues à faire ce qu'on attend de toi, tout va très bien.
Voilà,
tu votes à peu près pour ce que te dit ton mari, et puis tout ira bien.
Et en plus, c'est un courant qui est plutôt bourgeois. Bon.
Ça, c'était les quatre tendances.
Ça, c'était les quatre tendances. Exactement. Pendant la première vague, ça a duré un siècle. Il y a eu l'année fatidique, exactement, je cherchais le mot, qui est 1901. Alors, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait tous, c'est l'année de l'adoption de la loi sur la liberté des associations. Et de là, de nombreux assos féministes ou féminines ont émergé. Il y a notamment le Conseil national des femmes françaises qui est fondé dès 1901.
Je crois qu'il existe toujours.
Et il existe toujours, exactement. Et avec toujours les mêmes revendications et les mêmes idées, ce Conseil national, il rassemble des associations féministes et philanthropiques. Alors il y a toujours un peu cette idée de, voilà, on est féministe, mais on est aussi pour les bonnes œuvres. Ça a toujours un côté un peu bourgeois, charité. Ensuite, il y a l'Union française pour le suffrage des femmes, qui est créée en 1909 et qui se consacre à la cause qui va résumer le féminisme des années suivantes, finalement, qui est le suffragisme, donc la volonté que les femmes accèdent au droit de vote. Cette Union française, elle est républicaine et elle est proche du Parti radical. Ce parti qui, malgré tout, va bloquer la réforme du suffrage des femmes jusqu'à l'effondrement du régime en 1940. Donc ça pourrait expliquer en partie pourquoi les femmes en France ont obtenu le droit de vote assez tard finalement par rapport aux autres pays voisins. Mais ça, on fera un petit rappel des dates après. Finalement, à cette époque-là, les organisations féminines, conservatrices et monarchistes sont quand même bien plus nombreuses que les groupes féministes. Quelques chiffres. En 1914, l'Union française pour le suffrage des femmes, dont on vient de parler, compte 15 000 membres, alors que la Ligue patriotique des Françaises en compte 485 000 de plus.
Donc la Ligue, c'est le côté plus conservateur et moins laïque de la chose, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Cette Ligue-là, elle est fondée en 1902 et elle est encouragée par le clergé. Et elle promeut la maternité et le travail ménager. En 1919...
C'est un courant assez essentialiste, finalement, avant l'heure.
Oui, complètement.
Qui rentre totalement dans le schéma de la femme destinée au foyer et à la maternité, naturellement faite pour ça.
Exactement.
Qui rentre complètement dans les constructions mises en place au 19e, quoi.
Oui, c'est tout à fait ce dont tu parlais, en fait, tout à l'heure. Voilà, que la femme a un rôle défini, et on ne va pas chercher à faire autre chose. Et cette Ligue patriotique, d'ailleurs, elle va jusqu'à lancer un prix qui récompense les mères de plus de 8 enfants. Et si possible, des mères de prêtres ou de soldats tombés au champ d'honneur. Voilà, je crois que
non
ça...
Non pas des femmes de prêtres, hein, ce qui n'aurait pas de sens.
Je crois que ça veut tout dire, quand même. Le suffragisme, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a les suffragettes en Angleterre. Et en fait, c'est de Grande-Bretagne qu'est né le suffragisme. Et les suffragettes en Angleterre sont plus nombreuses que les suffragistes en France. Et elles ont des actions plus violentes. On en citera quelques-unes après. Il y a, dans tous les cas, hein, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France, il y a deux logiques à cette campagne-là. Alors, une qui est inspirée par les principes de la Déclaration des droits de l'homme, donc l'universalité des droits, l'égalité entre les citoyens, quel que soit leur sexe. Donc c'est ce qu'on appelle l'universalisme. Et puis l'autre, qui est plus fréquente, et qui justifie le droit de vote des femmes par leur spécificité féminine. Donc, c'est-à-dire qu'on pense que les femmes, elles ont une expérience et une sensibilité particulière, et que ça enrichirait la vie politique, et donc, elles doivent être représentées. Et ça, c'est du différentialisme. Donc, le différentialisme, il valorise les différences entre les individus, et il affirme leur caractère irréductible. C'est vraiment... C'est le principe des rôles traditionnels de l'homme et de la femme. Les suffragistes et les suffragettes, elles ont aussi quand même un programme politique. C'est pas seulement la lutte pour le droit de vote des femmes, c'est aussi la lutte contre les fléaux sociaux comme l'alcoolisme, les taudis, la délinquance, les maladies vénériennes et la tuberculose. C'est aussi précis que ça.
Tuberculose.
Oui.
Pourquoi pas.
Et puis, ce sont des grandes défenses.
On fera une émission sur la tuberculose.
Excuse-moi, je te déconcentre.
Oui, mais c'est bien un peu de rire dans tout ça. Alors, ce sont aussi des grandes défenseuses et défenseurs, parce qu'il y a des hommes aussi, de la paix. Et cette idée-là, elle est quand même associée au différentialisme qui dit que les femmes, parce qu'elles sont mères, sont pacifistes. Par nature.
Oui, et plus tournées vers la charité, qu'elles apportent un plus au monde, parce qu'elles sont femmes.
Voilà, exactement.
C'est consternant.
D'ailleurs, Jean Jaurès, parce que c'est un homme de cette époque-là, il était pour le droit de vote des femmes, mais avec cette idée de différentialisme. Voilà, les femmes sont douces, donc il faut les écouter, il faut entendre leur voix, tout ça. C'était son idée. Alors, comment on les entendait, justement, ces femmes et ces hommes qui luttaient pour le droit de vote des femmes? Donc, en Angleterre, justement, elles défilent dans les rues de Londres, elles s'accrochent aux grilles du Parlement, elles se retrouvent donc en prison, et en prison, elles sont plus d'un million, quand même, et elles font grève de la faim pour certaines, et elles connaissent une alimentation forcée.
Voilà. Il faut voir le film Suffragette qui est sorti il y a un an.
Oui, exactement. Je pense
on voit très bien
2015,
Ces trucs du gavage des prisonnières. Là.
Oui. Et ce film s'appelle Les Suffragettes, d'ailleurs, donc facile à trouver. Voilà. Et qui est très très bien fait. En France, elles sont un peu plus modérées, on va dire. Elles font des réunions publiques, elles font des campagnes de presse et d'affiches qui sont malgré tout limitées par le manque d'argent. Elles font aussi des manifestations de rue, mais qui sont quand même assez rares parce qu'elles sont de toute façon souvent interdites par le ministère de l'Intérieur. Donc finalement, ça limite quand même pas mal. Les Françaises, en fait, ne cherchent pas à provoquer. Elles veulent surtout rester crédibles. Et justement, dans les années 1930, il y a Louise Weiss, une féministe et journaliste, qui se dit que le plus efficace, c'est quand même de faire rire. Et donc, elle fait des actions spectaculaires. Par exemple, un lâcher de ballon lors de la finale de la Coupe de France de foot. Je n'ai pas l'année, désolée. Elle organise des manifestations bruyantes dans les rues et une perturbation du Grand Prix hippique de 1913 de Longchamp. Voilà. À ne pas confondre, bien sûr, avec ce que les Anglaises ont fait aussi dans un prix hippique, où là, il y a eu une morte. Voilà, je ne sais plus son nom, mais on le voit dans les suffragettes.
Mais globalement, les Françaises, c'est le max qu'elles ont fait, c'est lâcher des ballons et renverser une urne, quoi.
Oui, voilà.
C'est une lutte qui est toujours restée dans la légalité, il fallait avoir l'autorisation. En Angleterre, elles ont... totalement dépassé les interdictions. Elles ont lutté dans l'illégalité.
Oui, et elles ont eu le droit de vote plus tôt que les Françaises.
Oui.
Il y a quand même quelques coups d'éclat, on va dire, qui sont signés par Hubertine Auclert. On y revient. Donc, c'est ce que tu disais, elle renverse une urne et elle brise les vitres d'une salle de vote. Bon, elle a fait d'autres choses hyper intéressantes et on en reparlera dans le portrait qu'on fait d'elle en fin d'émission. Donc je vous disais aussi qu'il y a des hommes qui sont engagés auprès de ces luttes-là et auprès de ces femmes. Alors il y a ceux que j'ai déjà cités, bien sûr, et il y a aussi Joseph de Gasté, qui est un député de la fin du XIXe siècle, qui est un soutien financier et très généreux à la parution du journal La Citoyenne, qui est fondé par Hubertine Auclair. Et ce Joseph de Gasté demande également une révision constitutionnelle qui interdirait le cumul des mandats et rendrait obligatoire la parité dans les deux assemblées. Ça, c'était en 1890. Là encore, je vous invite à réfléchir sur ce qu'il en est aujourd'hui, quand même, par rapport à la parité dans les assemblées. On en parle encore, ça fait encore des débats, et rien n'est vraiment très fluide et très acquis. Il y a Léon Blum qu'on connaît tous et toutes, j'imagine, pour son activisme en 1936 auprès du Front Populaire. Alors, bien avant, en 1907, il a écrit un livre qui s'appelle « Du mariage », dans lequel il prône...
C'est la plus belle moustache du XXe siècle, hein, juste.
Léon Blum.
Parenthèse.
Oui. Oui, c'était important de le signaler. Dans « Du mariage », il prône les expériences préconjugales pour les jeunes filles. Bon, vous imaginez bien que ça a fait un gros scandale à l'époque.
Oui.
Voilà. Cette première vague, elle finit sous le régime de Vichy.
Ah bah elle s'échoue même, carrément.
Elle s'échoue, on peut le dire. Elle s'échoue sous le régime de Vichy. Alors là, il y a une révision du divorce qui a été rétablie, donc, comme disait Pauline, en 1884. Bon, ben là, on revoit tout. Il y a une répression de l'avortement, donc comme disait Pauline aussi, qui est un crime contre l'État et qui est puni par la peine de mort. Voilà.
On a décapité des avorteuses sous Vichy. Ouais.
Oui, tout à fait. En 1940, les femmes mariées ne sont plus embauchées, c'est interdit, pour laisser la place aux hommes. Les femmes de plus de 50 ans sont mises à la retraite. Il y a une glorification de la mère de famille nombreuse. Donc là, on revient toujours sur cette idée de la femme, plus que la femme, la mère au foyer. Et c'est de là que vient la fête des mères, qui a été instaurée par Pétain. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc raison de plus ou de
moins. Arrêtez de faire des colliers de nouilles.
Exactement, ne fêtez plus la fête des mères. En 1942, quand même, hein, bon, on est toujours sous occupation, mais il y a des nécessités économiques qui font que les femmes sont réembauchées. Malgré tout, les atteintes contre les droits des femmes passent relativement inaperçues, parce que les résistants et les résistantes sont occupés à d'autres choses qu'on connaît aussi, hein, avec le nazisme et tout ça.
Et même un petit peu avant, les militants se sont aussi vachement orientés sur le soutien aux républicains pendant la guerre d'Espagne.
Oui, aussi, oui. C'est vrai qu'il y a eu 1936 quand même, 36-39. Voilà, donc finalement, on finit cette première vague avec des idées antiféministes qui se banalisent. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une série, Brigitte, qui vous fera sûrement penser à Martine. C'est une série de romans qui a débuté en 1928 et qui... Voilà, c'est Brigitte, mère au foyer, Brigitte fait du logis, Brigitte tout ça, et qui reprend textuellement des morceaux de discours du maréchal Pétain. Voilà. Donc si c'est pas une belle manière de faire de la propagande, je sais pas ce que c'est.
Ok, donc en fait, la première vague, c'est surtout la lutte pour les droits civiques.
Pour les droits civiques.
Tu n'avais pas fini peut-être. Alors, en fait, j'allais lancer une petite chanson, mais peut-être que tu as d'autres choses à dire.
Je voulais juste rappeler quand même les dates. Je voulais juste rappeler à quelle date ont eu les droits de vote.
Les femmes ont eu les droits de vote. T'as oublié un mot. C'est pas grave.
Voilà. Je me disais aussi que ma phrase n'était pas du tout correcte. Donc, les Françaises ont obtenu le droit de vote le 21 avril 1944.
Et elles ont voté en 46 ?
45. Pour les municipales. Oui.
Oui, d'accord. C'est les présidentielles.
Oui, voilà. La première fois qu'elles ont pu voter, c'est en 1945. Et elles n'ont pas toutes voté parce que c'était quand même pas très... dans leur tête, c'était pas normal, quoi. C'était pas du tout acquis.
C'est pas
donc,
le réflexe.
Voilà. Alors que quand même en France, les hommes, ils votent depuis 1848. Hein. Le suffrage qu'on dit universel, c'était 1848. Voilà. Les Anglaises, elles ont obtenu le droit de vote en 1918, Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est quand même relativement tôt par rapport au début de la lutte. Et les Allemandes et les Autrichiennes en 1919 et les Américaines en 1920. Voilà, la France serait-elle en retard?
On pose la question.
Voilà.
On ne sait pas. Donc c'est quand même, la vague se termine sur cet acquis-là, enfin. C'est quand même un petit peu ça qui représente la première vague, puisque les luttes pour c'est quand même une première vague où même les féminismes ont totalement abondé dans le sens de la maternité et de la femme au foyer, ça, qui n'a pas vraiment tellement été remise en question, à part par quelques petites figures marginales et subversives. Voilà. Et en plus, il y a eu les deux guerres. Oui. C'est jamais très favorable.
Pas une vraiment. Guerre.
On peut écouter une petite chanson, du coup ?
On écoute une petite chanson.
Et bah, du coup, on va écouter... Vous avez tous vu Mary Poppins, étant petit. On va écouter Sister Suffragette.
Voici les soldats de la révolte qui font la croisade pour que toute femme vote. On sait qu'un homme a des tas de qualités, mais on doit bien dire qu'en groupe il est très stupide.
Madame Box,
laissons donc la querelle d'hier. Toutes dans l'union menons notre guerre. Devenons de nos mères les vengeresses et que nos filles disent et reconnaissent. Voilà les sœurs suffragettes.
C'est très intéressant, mais sans vous offenser, je veux...
De Kensington à Billingsgate, enfin ce n'est qu'un cri. Demain va dans tout le pays commencer notre ère. Politiquement, l'égalité sera un droit affirmé. Oh, mais avant, mes amis, qu'on libère des prisons nos guides. Ne plus servir ni même obéir, avouer que ça mérite de se battre bien décidé et le cœur fier.
J'aurais un mot à vous dire, c'est urgent, Madame Banks.
Oh, laissons donc la querelle d'hier,
Madame Banks.
Tout dans l'union menons notre guerre. Devenons de nos mères les vengeresses et que nos filles disent.
Nounou. Madame Banks, j'ai une chose fort importante à vous dire, c'est urgent.
On parlait tout à l'heure et pendant pas mal de temps, on l'a cité, c'est Hubertine Auclair. Donc on a choisi de faire un portrait sur elle, quand même plus précis. On aurait pu parler de beaucoup d'autres femmes, en fait. Voilà, mais Hubertine Auclair nous a semblé celle qui a des luttes plus actuelles, on va dire. Il y a beaucoup de liens, en fait. On peut faire beaucoup de liens entre ce qui s'est passé pour elle et puis ce qui se passe encore chez nous. Alors, cette Hubertine Auclair est née dans l'Allier en 1848. Ses parents étaient propriétaires terriens et elle est la cinquième d'une famille de sept et elle a eu beaucoup de sœurs. Elle est orpheline à 20 ans et elle est élevée au couvent, ou l'inverse. Elle épouse un homme féministe et fonctionnaire. Comme je vous le disais, elle est donc la première à s'autodéfinir féministe en 1882. Et plutôt que de revendiquer l'égalité des droits civils, elle se bat surtout pour l'égalité des droits politiques des femmes. Avec l'idée que si on veut vraiment remettre en cause la hiérarchie entre les sexes, il faut que les femmes participent à la décision politique et qu'elles prennent part à l'élaboration et au vote des lois. C'est une fervente républicaine qui se plaît à mettre ses contemporains face à leurs contradictions et on la définit ainsi comme étant radicale. Entre 1888 et 1892, elle part en Algérie, donc pendant la colonisation puisqu'elle a débuté quelques dizaines d'années plus tôt. Et à son retour, elle écrit un livre en 1900 dans lequel elle dénonce la double oppression des femmes algériennes, victimes des pratiques ancestrales et des pratiques coloniales. Voilà. Alors, quelques actions aussi qu'elle a fait, en fait, ce qui a peut-être résumé sa vie, féministe en tout cas. Alors, elle demande son inscription sur les listes électorales, et elle refuse de payer ses impôts.
La désobéissance civile.
Exactement. Voilà, son idée là, c'est de ne pas participer à la vie économique du pays, puisqu'elle ne participe pas à la vie politique. Je disais que c'était actuel, parce que là, on peut faire le lien quand même avec les étrangers en France qui travaillent en France et qui ne peuvent pas voter en France.
Payent des impôts, donc.
Oui, qui travaillent et qui payent des impôts, oui, bien sûr. Elle est une ardente partisane de la féminisation des noms de métiers et de fonctions, ce qui, pour elle, garantirait une égalité entre les sexes. Alors là, je vous rappelle qu'on est à la fin du 19e siècle. Et qu'aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, on est au 21e siècle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette féminisation des noms de métiers et de fonctions ? Mais ça bouge quand même. Elle boycotte le recensement aussi, en disant que si nous ne comptons pas, pourquoi nous compte-t-on ? Tout simplement. Elle interrompt intempestivement la lecture du code lors d'un mariage civil. Voilà, notamment quand le maire annonce ce que la femme a comme devoir envers son mari. Voilà. Elle manifeste pour le 14 juillet, alors avec d'autres militantes, donc à la Bastille. Elles sont toutes vêtues de noir, en deuil de la République qui bafoue leurs droits. Voilà, donc c'est quand même quelques actions coup de poing, comme on pourrait dire. Elles fondent aussi un journal, La Citoyenne, en 1881, qui est l'année de l'adoption de la loi sur la liberté de la presse. Et ce journal va perdurer jusqu'à 1891, car elle va manquer d'argent. Voilà, il dure quand même 10 ans. Et c'est un défenseur énergique et inlassable de l'émancipation des femmes, qui exige des modifications du code Napoléon, qui exige aussi que les femmes aient le droit de se présenter aux élections, qui affirme que les lois injuste ne serait jamais voté si les points de vue des femmes parlementaires étaient entendus. Ce qu'on peut signaler aussi, quand même, c'est qu'au cours de l'existence de ce journal, la Ligue des droits de la femme est fondée par Léon Richer, en 1882. Et en 1888, il y a le Conseil international des femmes qui est organisé, qui est la première organisation féministe internationale. Donc, en 1891, Hubertine Auclair ferme son journal, mais cette même année, il y a la militante Maria Martin qui en lance un autre, le Journal des femmes. Et quelques années plus tard, en 1897, c'est l'actrice et journaliste Marguerite Durand, qui est très médiatisée, qui ouvre un autre journal féministe, La Fronde. Pour finir sur Hubertine Auclair, elle est morte en 1914. Et finalement, elle n'a jamais vu la concrétisation de sa principale revendication. Et pourtant, grâce à ses actions et ses nombreuses pétitions, les vendeuses et les ouvrières ont obtenu le droit de s'asseoir dans les grands magasins et les ateliers.
Formidable. Magnifique.
Bravo, Hubertine. Et en 1907, les femmes deviennent électrices puis éligibles au Conseil des Prud'hommes. Alors là, qui s'en souvient ? Parmi vous, dites-nous.
Personne.
Bon, a priori, ça fait écho chez personne autour de la table. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut lire un petit extrait d'un discours qu'elle a prononcé au Congrès ouvrier socialiste de Marseille, et c'était en 1879.
Bon, je me lance. Alors, c'est une version raccourcie, bien sûr. Donc, il faut savoir qu'elle s'adresse à une assemblée d'hommes. Je viens, toute pénétrée d'estime pour cette grande assemblée, le premier des corps librement élus en France depuis tant de siècles, qui permettent à une femme, non parce qu'elle est ouvrière, mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire exploitée, esclave déléguée de 19 millions d'esclaves, de faire entendre les réclamations de la moitié des déshérités du genre humain. Écouter nos plaintes, c'est commencer à vouloir être juste. Admettre les femmes au milieu de vous, au même titre que les prolétaires, c'est faire avec elles un pacte d'alliance défensif et offensif contre nos communs oppresseurs. Si dans cette imposante assemblée je posais cette question, êtes-vous partisans de l'égalité humaine ? Tous me répondraient oui, car ils entendent en grande majorité, par égalité humaine, l'égalité des hommes entre eux. Mais si je changeais de thème, si pressant les deux termes, hommes et femmes, sous lesquels l'humanité se manifeste, je vous disais, êtes-vous partisans de l'égalité de l'homme et de la femme ? Beaucoup me répondraient non. Citoyens, je le constate avec tristesse, vous qui vous dites les forts, Vous qui vous faites un jeu de l'existence de celles que vous appelez les faibles. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous exploitez les femmes. Aussi, économiquement, civilement, politiquement, nous n'existons pas. Et c'est nous qui donnons la vie, et c'est nous seuls qui permettons à la civilisation de s'implanter. Nous protestons contre la situation des mortes civiles, des dégradés d'origine qui nous est faite. Nous proclamons comme vous, citoyens, le principe de l'égalité humaine. Nous entendons par là non seulement l'égalité de tous les hommes entre eux, mais encore de l'égalité des hommes et des femmes. Nous voulons pour elles, comme pour vous, l'instruction intégrale, les mêmes facilités de développement physique, moral, intellectuel, professionnel. Nous voulons pour les femmes, comme pour les hommes, liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'action. Nous réclamons pour les femmes, comme pour les hommes, voix délibérative dans la commune, dans l'État ou dans le groupe. Parce que les femmes, comme les hommes, sont intéressées aux lois et règlements qui se font. Parce que les femmes, payant les impôts, ont autant de droits que les hommes d'exiger une bonne répartition de ces impôts. Parce que dans une vraie république, il n'y a plus de privilégiés, il n'y a que des intéressés qui se soumettent aux mêmes devoirs, doivent posséder les mêmes droits. Nous nous adressons à vous, prolétaires, comme à nos compagnons d'infortune pour appuyer notre droit à sortir de la servitude. Vous êtes électeurs, vous avez la puissance du nombre. Vous, tous, vous êtes femmes par le cœur, vous êtes nos frères. Aidez-nous à nous affranchir. Ô prolétaires, si vous voulez être libres, cessez d'être injustes. Avec la science moderne, avec la conscience qui, elle, n'a pas de préjugés, dites « égalité entre tous les hommes, égalité entre les hommes et les femmes, ascension de toute la race humaine unie dans la justice vers un avenir meilleur. » Voilà.
Merci Pauline pour cet extrait.
Il y a des choses qui datent un peu, mais...
Ah oui, là, on était en 1879.
Intéressez-vous aussi à Marguerite Pelletier. On n'a pas le temps, mais intéressez-vous à elle. Elle était très, très subversive à l'époque. Vraiment très subversive. Qu'est-ce qu'on... On va pas tarder à se dire au revoir.
Oui, je crois. Je crois qu'il est temps.
On peut peut-être dire un petit conseil lecture. Nous, on s'est... Notamment, Emeline, elle s'est appuyée sur un super bouquin que vous pouvez lire.
Oui, qui est « Le féminisme au-delà des idées reçues » de Christine Bard, B-A-R-D.
C'est une historienne qui est spécialisée dans le féminisme. Elle a une bibliographie longue comme le bras. Et tout est bien.
Oui, mais vous en re-entendrez parler parce que je pense qu'on va s'en servir pour les prochaines émissions.
Et si vous aimez la BD, le sexe et l'histoire, il faut lire, Sex Story, une grosse BD sur toute l'histoire de la sexualité, qui est bien faite aussi. Voilà. Et on apprend plein de trucs, pas que sur le sexe d'ailleurs.
Et présenté comme ça, on ne peut pas refuser.
Voilà. Et on peut finir avec un petit agenda local.
Oui, complètement.
Aussi. Donc, alors, les copines du planning familial d'Aurillac ont invité Sophie Akawi le 9 mars. Sophie Akawi, elle fait une conférence clitoridienne qui s'appelle Le Bouton de Rose. Donc, c'est un petit spectacle sous forme de conférence où elle va parler de clitoris. Venez avec vos copines et vos copains. Donc, c'est à Aurillac, à l'espace Elitas, le jeudi 9 mars à 20h. Voilà, c'est près du stade et c'est une entrée solidaire. C'est-à-dire que c'est un prix libre a priori. Libre mais nécessaire. Et je crois qu'il y a un concert au Doc.
Le 30 mars.
Le 30 mars. Et alors voilà, le truc c'est qu'on n'a pas pris les papiers avec nous parce qu'on n'est pas très pro du coup. Mais
C'est une soirée.
Au Doc à Cahors, voilà.
Le 30 mars.
Le 30 mars, c'est une soirée
avec des voix féminines.
Et ce sont que des... Je crois qu'il y a trois concerts et c'est que des groupes de meufs et ça va danser.
Et swinguer.
Et c'est que... Que des groupes de nanas, donc voilà. Et le 10, 11 et 12 mars, on a les rencontres Ocytocine, qui est une rencontre féministe sur Marcillac-Vallon, dans l'Aveyron. Que, voilà, c'est pas très loin de Figeac, ça mérite d'y aller. 10, 11, 12 mars, donc ce sera trois jours autour du féminisme avec beaucoup d'intervenantes comme par exemple le collectif des sans-culottes que vous connaissez peut-être qui fait une conférence gesticulée sur le consentement, mais il y aura aussi plein de collectifs d'un petit peu partout qui viendront montrer leur travail. Il y aura des ateliers d'autodéfense, d'éducation populaire sur l'accouchement, tout ça. Il y aura des ateliers mixtes, des ateliers en non-mixité. Je crois même qu'il y aura un atelier en non-mixité homme. Donc voilà, des concerts, des lectures, des projections. C'est un prix libre et c'est dans différents lieux, notamment pour ceux qui connaissent Marcillac-Vallon, il y aura des choses au Guingois, je crois, le bar associatif. Donc vous pouvez avoir tout toute la programmation en fait sur leur blog. C'est ocytocinemarcillacvallon.blogspot.fr, donc ocytocine avec un Y en premier, et tout attaché. ocytocinemarcillacvallon.blogspot.fr. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire, vu qu'on est des planninguettes, on peut juste rappeler qu'il y a la permanence du planning le lundi de 17h à 19h.
À Figeac.
Voilà. Et bientôt à s'insérer.
Oui.
Pour clôturer, on va écouter Bikini Kill, Double Daria. Bikini Kill, c'est un groupe du mouvement Riot Girl au début des années 90. Voilà, c'est un mouvement punk et qui a un petit peu marqué le plus ou moins le début de la troisième vague, dont on parlera plus tard. Vous pouvez nous faire des retours, des suggestions, des propositions, des insultes si vous voulez, sur notre boîte mail superlativedélices, tout attaché et sans accent, et au pluriel, @riseup.net, superlativedélices@riseup.net.
On se retrouve le mois prochain
pour la deuxième vague, parce qu'il y en a une deuxième qui est encore meilleure, et on va parler... Alors là, pour le coup, on va un peu moins parler droit civique, on va plus parler corps et avortement et contraception
et sexualité
et militantisme. Voilà. À bientôt.
À bientôt.
Retrouvez-nous le mois prochain dans Superlative Délices. Bon dimanche.